KPCAP, Jacques Lavergne, bonjour. Aujourd'hui, ce KPCAP va nous amener en dehors des studios, au théâtre de la Cité, au cœur de Toulouse. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie.
Then, what are we fighting for?
Voilà, vous avez reconnu le bel accent anglais de Mathis, un de nos stagiaires du LGT que je remercie. Alors, il ne m'est pas habituel de me livrer à des citations dans la langue de Shakespeare, mais en l'occurrence, l'occasion le mérite. L'auteur de cette interpellation est un certain Winston Churchill que l'on ne présente plus. Pour cet homme politique qui sut mener une guerre difficile et par ailleurs écrivain et peintre, et même il fut nobélisé, il était évident que culture et civilisation étaient une seule et même chose. Raison pour laquelle il avait lancé cette question à des députés de la Chambre des communes réclamant que soient supprimées les subventions à l'art et à la culture afin de mieux soutenir l'effort de guerre contre le Troisième Reich. Donc, je vous traduis dans la langue de Molière cette interpellation. Sans la culture, pourquoi combattre ? Une interrogation dont certains devraient se souvenir avant de tailler sans état d'âme dans le financement de ce qui se veut être le meilleur de nous-mêmes. Et il parvient souvent, d'ailleurs, la culture, l'art sous toutes ses formes. Alors, il est vrai que l'homme au cigare et au flegme tout britannique était un homme d'État avec un grand H et un grand E. Là où bien souvent, nous n'avons affaire dans notre beau pays, si prompt à donner des leçons à la terre entière, qu'à des politiciens aux préoccupations plus terre-à-terre et là souvent plus personnelles. Ce qui nous ramène au même Churchill, lorsqu'il disait avec justesse, ouvrez les guillemets, « Le politicien devient un homme d'État quand il commence à penser à la prochaine génération plutôt qu'à la prochaine élection. » Et pourtant, nous aussi, nous sommes en guerre. Guerre contre l'abêtissement télévisuel, merci Monsieur Bolloré, mais pas que lui, hélas. Contre celui des écrans en règle générale qui détournent tant d'esprit à des fins futiles et mercantiles. Contre les atteintes à la liberté de pensée, déjà dénoncées par la philosophe Simone Weil, c'était en 1934, ou même par l'écrivain Georges Bernanos en 1947, en guerre contre un monde dit « moderne » qui fait tout pour attacher l'homme au bien matériel en créant une société tournée vers l'uniformisation, la concentration, l'organisation rigide. En guerre contre une éducation utilitariste formant des consommateurs et des producteurs destinés à s'intégrer dans une société gérée par la science et la technique. Et là, je vous renvoie aux écrits certes anciens, mais très justes et très prémonitoires de Bernard Charbonneau. En guerre contre la violence endémique qui sévit notamment parmi les plus jeunes d'entre nous. Et plus largement en guerre contre ceux qui voudraient voir disparaître notre modèle politique et social, cette démocratie qui les dérange tant, on peut nommer la Chine, son allié vassalisé la Russie, voire même aujourd'hui l'Iran qui forme l'autre côté du triangle. Bref, la culture est le socle de notre civilisation, sa colonne vertébrale. Elle seule peut rapprocher des femmes et des hommes divisés par la vie, les réunir par la beauté, le plaisir des sens et de l'intellect, l'élévation de l'âme. Ou pour le dire comme Anna Arendt, la culture c'est sortir de la prison que chacun d'entre nous est pour lui-même. Fin de citation. Dès lors, ce qui devrait être une des préoccupations premières de tout dirigeant politique lui sert le plus souvent de variable d'ajustement financier et ou d'instruments politiques lui permettant de combattre les idées qui lui déplaisent. Le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, M. Wauquiez, en est un pitoyable exemple. Pêle-mêle, et pour donner un aperçu de quelques grandes institutions affectées par des amputations importantes de crédits, citons le Théâtre National de la Danse, le Palais de Chaillot, le Théâtre National de la Colline, l'Académie de France à Rome, le Musée du Louvre, la Comédie Française, l'Opéra de Paris, juste quelques noms connus, mais il en est tant d'autres, moins fameux, mais tout aussi actifs et nécessaires à une vie culturelle riche et créative. Et le dernier exemple en date, malheureusement, je dirais, est celui du Théâtre de la Cité, malheureusement parce que c'est à Toulouse, dans notre bonne ville. Théâtre de la Cité, qui est un centre dramatique national depuis 1949 et qui vient de voir la subvention versée par le conseil départemental de la Haute-Garonne brutalement amputée de 80%, en attendant, paraît-il, sa suppression définitive l'année prochaine. Alors notre personnel politique, qui est déjà à la peine sur bon nombre de thématiques, à commencer par l'environnement, poursuit donc avec une méritoire constante des politiques médiocres et qui vont à l'encontre de l'intérêt des Français, en l'occurrence des Toulousains. Comment s'étonner après de la désaffection des urnes, voire de l'arrivée de partis extrémistes qui valent encore moins, mais peuvent se parer de leur virginité en termes de pouvoir ? Et surtout, comment ne pas penser à la bien connue formule de Pierre Desproges, que je me plais souvent à rappeler, ouvrez les guillemets, tout en font plus de grands hommes, mais des petits qui grenouillent et sautillent de droite à gauche, avec une sérénité dans l'incompétence qui force le respect. Fin de citation, fermez les guillemets, on a toujours plaisir à rappeler la mémoire de Pierre Desproges. Et puis, pour finir ce texte, à lire ou relire, avec délectation, un excellent livre, ça s'appelle SOS Culture, ça a été écrit par Serge Regour, qui est enseignant à l'Université des sciences sociales de Toulouse, mais qui est aussi élu à la région Occitanie, et c'est chez Indigène Éditions, SOS Culture. Lisez-le, je pense que vous y prendrez beaucoup de plaisir et que ça vous permettra de comprendre peut-être un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde si troublé de la culture. Et pour illustrer ce que je viens de vous dire, eh bien, je vous amène au Théâtre de la Cité, où le directeur, le co-directeur, puisqu'ils sont deux, il y a un co-directeur, artiste-directeur qui est Galin Stoev, et il y a un co-directeur qui s'appelle Stéphane Gilles et qui a bien voulu recevoir Esprit Occitanie et Cap Cap. Écoutons-le. Stéphane Gilles, bonjour. Merci de nous recevoir au très beau Théâtre de la Cité, donc situé au confluent des rues Labéda, rue Baudis.
Exactement, sur l'emplacement de l'ancien conservatoire de musique de Toulouse. Et bienvenue au Théâtre de la Cité.
Eh bien oui, c'est une grande maison. Il s'y passe beaucoup de choses. On va essayer de la décrire un peu. Et puis on va commencer par l'historique. On commence toujours par le départ. Donc créé par qui et quand ?
Alors c'est Maurice Sarrazin en 1940.
Un grand nom.
Maurice Sarrazin, oui, qui nous a quittés l'an dernier, qui est un grand metteur en scène toulousain qui, en 1949, a obtenu le label de Centre Dramatique National, l'idée étant qu'il puisse, de la part de l'État, avoir une sorte de subvention qui garantissait les moyens de production et d'avoir un lieu pour pouvoir déployer le travail de sa compagnie. Le Centre Dramatique a été accueilli dans plusieurs théâtres toulousains, le Théâtre Sorano, le Théâtre de la Digue, jusque dans les années 90, où Jacques Rosner a pu obtenir de la part de la ville de Toulouse le projet de construction d'un théâtre. Et ça a été le projet du Théâtre de la Cité sur l'ancien emplacement du conservatoire. Donc ça a été un projet qui a été porté pendant une dizaine d'années, et le théâtre a été inauguré dans ses nouveaux locaux en 1998.
Donc ça veut dire que les murs ici, le bâtiment appartient à la ville de Toulouse ?
Le bâtiment appartient à la métropole de Toulouse, ça a été transféré de la ville à la métropole, et c'est le Centre Dramatique qui en a le droit d'usufruit, d'usage, puisque c'est un bâtiment qui a été fait pour lui, puisque c'est un lieu qui est fait pour le théâtre, avec à l'intérieur du bâtiment tous les espaces qui servent à fabriquer du théâtre. On va avoir un atelier décor, un atelier costume, on va avoir un studio d'enregistrement, des salles de répétition et des salles de représentation. Nous avons trois salles de représentation, une grande salle qui fait quasiment 900 places, avec un plateau qui permet d'accueillir tout ce qu'on veut, qui a été pensé techniquement pour avoir une profondeur, une hauteur et un équipement technique très très performant.
Quelles sont les dimensions du plateau ?
Alors, ce qu'on appelle l'ouverture du cadre de scène, oui, c'est-à-dire ce que voit le spectateur depuis la salle, fait jusqu'à 16 mètres.
Ah oui, effectivement, c'est considérable.
De mur à mur,
oui,
ça fait 35 mètres. Ce qu'on appelle les cintres, c'est-à-dire ce qui permet d'évacuer, oui, les décors en hauteur, fait 21 mètres de haut. Et on a des dessous de scène, c'est-à-dire que le plateau peut être détrapable. On peut enlever tous les espaces bois du plateau et on a 7 mètres de dessous. Donc vous pouvez faire disparaître un décor par le dessous, par le dessus, par les côtés, sans que le spectateur ne voit les coulisses de cette machinerie-là du théâtre.
Donc c'est quand même un outil, un très très bel outil.
C'est un outil incroyable qui techniquement a été pensé vraiment pour un usage quotidien. Donc la circulation des décors, le montage, le démontage, l'entrée du camion, le déchargement, l'accueil du public, la circulation du public dans les salles et ainsi de suite, est très ergonomique. et permet d'avoir une activité qui peut avoir plusieurs choses en même temps. Donc on peut avoir un spectacle qui répète au cinquième étage, du public en salle avec 900 personnes, un autre public dans l'autre salle à 250 places qui peut cohabiter sans aucune interférence sonore ou même de physique, et un bar qui peut accueillir ou un restaurant qui peut avoir ses terrasses ouvertes sur la rue. Donc tout ça...
En plus, c'est un directeur heureux, comblé.
Voilà, tout ça permet d'avoir une multitude d'activités, une multitude de services aussi, et qui permet de diversifier de plus en plus l'outil, le bâtiment, pour qu'il ne soit pas simplement à l'usage des spectateurs et spectatrices, mais qu'on déploie tout le long de l'année d'autres rendez-vous qui fait qu'on désacralise cet outil qui, malgré tout, a été pensé dans les années 90, comme on pensait les théâtres dans les années 90.
On les pense différemment aujourd'hui ?
Totalement.
Qu'est-ce qui change ?
Ce qui change, c'est le côté sacré, en fait. Dans les années 90, on pensait un théâtre comme quelque chose d'un peu ostentatoire, au milieu de la place du village, qui ne devait avoir qu'une seule et unique activité, et qui devait présenter un art qui était un art pensé pour une certaine bourgeoisie, d'une certaine façon. Alors qu'aujourd'hui, les théâtres sont pensés comme des lieux de vie, des lieux où on peut faire à la fois de la recherche, de la formation, de la diffusion, de la production, où on peut avoir à la fois du théâtre, de la danse, du cirque, de la marionnette, donc des usages, des pratiques différentes.
Et l'opéra ?
L'opéra, c'est une particularité parce que le son et l'emplacement de l'orchestre nécessitent une scénographie très particulière. Nous, ici, on ne peut pas faire d'opéra parce qu'on a une fausse orchestre qui ne peut accueillir que 25 musiciens.
Oh, déjà, c'est quand même pas mal, 25
musiciens. Mais vous êtes principalement sur l'opéra contemporain. Mais dès que vous voulez aller sur un opéra, qu'on va dire de répertoire au classique, vous ne pouvez pas parce que vous êtes minimum à 40, 50 ou 80 musiciens. Donc là, c'est la configuration scénique qui ne permet pas de faire d'opéra. Mais pour autant, on fait des projets opératiques, des projets vocaux, et on travaille avec le Théâtre du Capitole parce que sur des formes contemporaines, l'écrin qu'est le Théâtre de la Cité permet de le faire. Et surtout, aujourd'hui, on essaie de ne pas rendre la lecture du lieu comme une lecture qui ne serait qu'à l'usage d'un art ou qu'à l'usage d'une population qui l'utiliserait que pour cet art-là. Donc on y fait des conférences, on y fait des débats, on y fait des présentations de produits, parfois avec des locations de salles, on y accueille d'autres partenaires, on y présente d'autres activités.
Ça veut dire que vous optimisez au maximum l'espace et vous le rentabilisez, si je peux.
Alors, optimiser et rentabiliser, non, parce que ce ne sont pas des choses qui rapportent de l'argent et coûtent toujours de l'argent. Dans un établissement public, on est là pour investir de l'argent. Mais par exemple, aujourd'hui, on est jeudi, quand vous êtes arrivé dans le lieu, vous avez peut-être vu qu'il y avait des producteurs de fruits et légumes qui viennent distribuer une fois par semaine leurs fruits et légumes pour être sur une vente directe du producteur aux clients.
On est toujours sur la culture.
D'une certaine façon. Et dans ce rapport de comment il y a un espace qui permet de faire le trait d'union entre celui qui crée et celui qui consomme, et que ce trait d'union va permettre de faciliter la connexion, la rencontre, l'accessibilité, et donc potentiellement le plaisir que l'on aurait à découvrir ce bien, qui peut être un bien agricole ou un bien culturel, et à en voir toute la pertinence, tout le savoir-faire qu'il peut y avoir derrière.
C'est un vrai service public.
Totalement. Avec une politique tarifaire qui est celle du service public, puisque nos tarifs vont de 8 euros à 20 euros. Donc on est bien, bien, bien en dessous de ce que coûte réellement la chose. Oui. Mais c'est aussi par ce prix-là que vous pouvez avoir des moins de 30 ans qui viennent au théâtre pour 12 euros et des personnes qui prennent un abonnement pour 16 euros. Et quand on voit que la place de cinéma coûte aujourd'hui 14,90 euros au Gaumont, on est très proche en effet alors qu'on ne fait pas le même métier, puisqu'on a des gens en réel, en vivant sur le plateau, on permet une accessibilité et le prix n'est plus un frein.
Vous avez une équipe importante sur le plan humain ?
On a une équipe de 42 permanents, à laquelle on rajoute 8 comédiens qui sont avec nous toute l'année et avec qui on travaille sur la question de l'insertion. Et quand vous rajoutez les techniciens et les artistes intermittents, vous arrivez à 85 équivalents temps plein. Et quand vous prenez, là de façon plutôt photographique, la situation d'un théâtre dans une journée classique, entre les personnes qui travaillent avec nous pour le ménage, pour le spécial sécurité, pour le restaurant, pour les ouvreurs et ouvreuses qui accueillent les spectateurs, pour les techniciens et techniciennes, ou pour les acteurs et actrices et toute l'équipe permanente, il y a à peu près 120 personnes qui travaillent au quotidien dans le théâtre.
Oui, c'est considérable. 120 personnes, c'est une grande maison.
Pour le secteur économique, on est une moyenne entreprise, une petite entreprise. Mais pour l'écosystème du spectacle vivant, on est une très grande entreprise, en effet.
Qui c'est qui vient au théâtre en termes d'âge? C'est plutôt des... Alors, vous avez dit tout à l'heure, on a des prix très attractifs, même les jeunes peuvent se l'offrir. On en a deux autour de nous, là. Je ne pense pas qu'ils soient encore venus vous voir, mais je pense qu'ils vont en avoir rapidement envie. Est-ce que vous avez des jeunes ou des gens un peu plus mûrs?
Alors,
pour être pudique.
Là, c'est les chiffres qui parlent. Oui. C'est pas mon auto-congratulation de la réussite du projet, tout ça, mais 40% de la billetterie est consacrée aux moins de 28 ans. Donc, en effet, 40% de la population qui fréquente le Théâtre de la Cité a moins de 28 ans. Dans ces moins de 28 ans, vous allez avoir à peu près un tiers de ce qu'on va appeler étudiants, un tiers de ce qu'on va appeler collégiens et lycéens, et un tiers de ce qu'on va appeler école primaire. Donc, les écoles primaires vont être forcément dans un parcours de spectateurs autour de la programmation jeune public. Collèges et lycées vont être plutôt dans des parcours construits par les enseignants, surtout dans les parties littéraires, mais la plus pluridisciplinaire et avec du répertoire et du contemporain. Et dans le parcours étudiant, là, on va être vraiment sur du choix personnel, individuel, et non plus accompagné ou en groupe de personnes qui ont envie d'aller au théâtre et qui vont au théâtre comme elles vont au concert, comme elles vont au cinéma et ainsi de suite, et qui construisent, excusez-moi, leur parcours de spectateur.
Pardon, je vous coupe. Vous avez une particularité, c'est que vous êtes deux directeurs et il y a un directeur qui est directeur artiste. Alors, qu'est-ce que c'est que cette...
Alors, c'est toute la spécificité des centres dramatiques. Un centre dramatique est attribué à un artiste, metteur en scène, auteur ou comédien. Ici, Galine Stoef est artiste, metteur en scène. Et depuis qu'il est arrivé à la direction, il s'est pris au goût d'être également comédien. La particularité de Galine, c'est qu'il est bulgare et qu'il n'a jamais eu en France d'activité de compagnie ou de direction de lieu avant de prendre la direction du Théâtre de la Cité.
Et comment on est allé le chercher à lui? Alors
on ne va pas chercher la direction d'un centre dramatique. On fait savoir qu'il y a un appel à candidature et des artistes candidatent et font savoir qu'ils ont envie de prendre la direction. Et dans le cas particulier de Galine, n'ayant pas eu d'ancienneté ou d'expérience française sur la direction de lieu, il a voulu candidater en binôme et donc on s'est rencontrés, on a construit un projet ensemble et on a écrit les intentions, les intuitions, les ambitions que nous avions pour le lieu.
Ah, vous êtes arrivés tous les deux?
Tous les deux, avec la particularité que nous étions complémentaires et que moi, j'étais un enfant du service public ayant travaillé pour des institutions et en particulier pour Arcadie qui était l'agence culturelle d'Île-de-France. Et donc, moi, j'apportais le savoir-faire de la programmation, la production. Et lui était l'artiste qui était nécessaire à la candidature du centre dramatique. Et c'est par notre association que nous avons construit un projet et qui a été retenu pour la candidature dès 2018.
Donc ça fait 2018, ça fait 4 ans.
On arrive à la fin du deuxième mandat.
Oui.
Et il nous reste un dernier mandat qui va aller de 2025 à 2027, puisque la direction d'un centre dramatique est comme une location. C'est un contrat qui ne peut pas être renouvelé au-delà des 10 ans. Et il est renouvelé 3 fois pendant cette période de 10 ans, 4 ans, 3 ans et 3 ans.
Oui, donc vous n'êtes pas là à vie.
Non, et c'est très important parce que comme vous n'êtes que de passage, vous devez rendre l'outil dans un meilleur état que vous ne l'avez trouvé. Et vous devez surtout lui donner une couleur pendant cette période-là. C'est-à-dire que votre passage au sein de la direction du centre dramatique doit être une occasion pour l'artiste de déployer son travail, de s'émanciper, de s'affranchir aussi. Parce qu'il a une équipe permanente avec lui, parce qu'il a un encadrement qui peut lui permettre de pouvoir rêver, de pouvoir être ambitieux. Et à la fois, il faut que vous construisiez quelque chose qui va rendre pérenne la relation au territoire, aux partenaires, au public, pour que quand la personne va vous succéder, qu'elle soit une femme ou un homme, elle soit aussi avec l'atout de pouvoir bénéficier d'une empathie du territoire et d'une ambition pour qu'elle puisse elle-même développer un autre projet.
Oui, donc c'est quand même un problème. Alors, qui c'est qui vous a choisi? Parce que il y a eu appel à candidature, mais...
Alors, il y a un appel à candidature.
Il y a un jury, certainement.
Il y a un dossier qui est déposé. Et après, à l'époque, il y avait la métropole de Toulouse, l'État, via la DRAC Occitanie, et la région Midi-Pyrénées, puisqu'à l'époque, il y avait une tout juste région qui était en train de naître, qui était la région Occitanie, en 2016. Et la nomination s'est faite tout début 2017, donc c'était encore... Les représentants de l'ex-Midi-Pyrénées qui étaient là pour la nomination de la nouvelle candidature.
Et la DRAC, dont la Direction régionale des affaires culturelles, aujourd'hui aux mains de Michel Roussel, intervient beaucoup?
Alors, c'est notre collectivité de tutelle, on va dire, puisque nous avons un label d'État, un label national, qui est Centre Dramatique National. Et donc, c'est l'État qui est garant du bon fonctionnement. Dans l'ordre des choses, l'artiste directeur signe un contrat de travail avec la ministre ou le ministre de la Culture, qui débouche sur un contrat de décentralisation, qui permet de définir ce que va être le projet de décentralisation de l'État via son outil qui est le Centre Dramatique, qui ensuite débouche sur une convention pluriannuelle d'objectifs qui est signée entre les trois collectivités, maintenant les quatre, puisque le département jusqu'à présent était membre de cette convention pluriannuelle d'objectifs. Et cette convention pluriannuelle d'objectifs permet aux quatre partenaires et à l'institution qui est le Centre Dramatique de dire, voilà, pour 3 ans ou 4 ans, ce que l'on veut faire, comment on veut le faire, avec qui on veut le faire, dans tel et tel contexte, et surtout d'évaluer à la fin, via des indicateurs et des valeurs communes que l'on définit quantitatives et qualitatives, ce que l'on veut faire et comment on veut le faire.
On est bien en France, hein, tout ça. C'est une usine à gaz.
C'est une usine à gaz, mais c'est assez passionnant dans cet exercice administratif d'anticiper ses souhaits, de rendre concret ses ambitions, de chiffrer ses objectifs pour se donner une sorte de feuille de route et de tenir dans cette feuille de route-là. Parce que je peux vous dire, je vais produire, je vais coproduire, je vais être attentif aux compagnies régionales, je vais avoir une programmation paritaire, oui, faire des promesses. Sauf que si vous n'avez pas cette feuille de route, vous pouvez trouver mille et une excuses, et nous, depuis 7 ans, la Covid, l'inflation, l'occupation du théâtre, il y a eu plein de raisons qui auraient pu nous détourner de la feuille de route. Or, c'est une sorte de rappel à l'ordre qui est très salvateur parce qu'il permet d'avoir comme ça une sorte de ligne de conduite et de référentiel commun. Et donc, moi, ça m'a fixé des objectifs qui sont très... qui donnent de l'ambition et qui donnent du courage. Et par exemple, sur la question de la parité, j'aurais pu me trouver plein d'excuses, mais de me l'être fixé comme un objectif, ça m'a changé ma méthode de travail. Ça m'a changé ma façon de prospecter, de rencontrer, de discuter avec les artistes, de distribuer l'argent. Et donc aujourd'hui, depuis 3 saisons, nous sommes totalement paritaires. Et je sais que c'est grâce à cette contrainte administrative, par cette forme de coercitif, que les choses ont pu se faire et se faire aussi vite.
Alors quand vous avez soumissionné, quand vous avez rempli votre dossier, il y avait une ligne artistique, on serait dans un média, on dirait une ligne éditoriale. Quelle était celle que vous avez soumise aux collectivités ?
Alors il y avait quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur avec Aline, c'était que nous voulions sortir de quelque chose d'une pensée unique, d'une certaine façon. Souvent, quand vous prenez la direction d'un théâtre, les personnes qui vous accompagnent, les personnes qui constituent la programmation, sont constituées d'une filiation que vous avez par rapport à votre propre parcours. Cette filiation, elle vient de votre formation ou elle vient d'amitié ou d'expérience que vous avez eue. Et donc, tout prend souvent la même couleur. Nous, ce qui nous importait, c'était que de ma boulangère, en passant par ma grand-mère, ou en revenant par quelqu'un qui avait l'habitude de prendre 15 spectacles dans l'abonnement, tout le monde, vous étudiants, vous lotois, tout le monde pouvait à un moment se dire « Tiens, ça m'intéresse dans la programmation. » Tout ne m'intéresse pas, mais au moins, si je dois me connecter à vous, si je dois m'intéresser à franchir la porte, il faut que j'arrive à vous convaincre qu'il y a au moins un projet qui vous concerne.
Donc c'est l'éclectisme.
L'éclectisme. Et dans cet éclectisme, on s'était donné 2 lignes de conduite. La première, d'être principalement sur les écritures contemporaines, donc peu de répertoire. Et quand nous étions sur le répertoire, de se poser la question s'il pouvait être retraduit, ou en tout cas vraiment dépoussiéré, c'est-à-dire de lui donner un autre axe dramaturgique et de se reposer la question de comment l'œuvre aujourd'hui racontait encore quelque chose et comment elle était connectée à la personne qui allait la recevoir. Et le deuxième axe était de parler des sujets de la société dans laquelle nous vivions aujourd'hui. Faire une sorte de politique dans le sens où nous ne pouvions pas passer à côté des sujets qui étaient, par exemple, aujourd'hui nous parlons de la question de MeToo, de l'inceste, des questions LGBT et ainsi de suite. Il nous semble important que le théâtre ne soit pas un théâtre documentaire, mais soit un théâtre documenté et que de fait, Quand vous êtes spectateur, si vous voulez à un moment être en connexion avec ce qui se passe sur le plateau, il faut qu'il y ait de près ou de loin quelque chose qui fasse écho avec le monde dans lequel vous vivez. Ce n'est pas forcément parler du monde dans lequel on est, c'est pas faire du documentaire justement, mais c'est de parler avec une forme de représentativité, avec des sujets qui en effet connectent, interrogent et viennent créer du sensible, viennent créer de la connexion, viennent chercher l'émotion.
Et politiquement, ça ne pose pas de problème parce que là, on s'engage. C'est pas, vous n'êtes pas neutre, là. Alors, vous allez sur des terrains contestés, débattus, critiqués.
Ce n'est pas politiquement que ça pose problème, c'est justement auprès des autres artistes ou auprès du public. Politiquement, nous avons une chance très importante et dans laquelle je suis vraiment extrêmement redevable, c'est que le label... Et cette fameuse contrainte administrative qu'on a évoquée tout à l'heure comme une sorte de contrôle ou en tout cas d'anticipation fait que quand on a signé le contrat, après il y a une confiance qui s'installe et cette confiance fait qu'il n'y a jamais eu d'injonction, de droit de regard, de droit de tirage de n'importe quelle collectivité pour dire mais moi j'aimerais bien que vous fassiez ça ou je pense qu'il faudrait recevoir telle et telle personne. Jamais. Et vraiment, c'est parce qu'il a été posé les choses de façon très transparente dès le départ, qu'il y a un cahier des charges, qu'il y a cette autonomie qui nous est confiée et que cette confiance a lieu. Et que la collectivité sait que si elle a des critiques à nous faire, il y a des instances qui sont les comités de suivi, qui sont à la fin du mandat, qui sont la possibilité de dire « maintenant je ne vous veux plus, donc je ne vous renouvelle pas votre contrat », qui sont des échéances sur lesquelles les choses peuvent se dire et se faire. Et ça pose... une sorte de confiance et de confort pour qu'il n'y ait pas d'injonction ou d'ingérence de la collectivité et du politique dans la programmation. Ça fait grincer les dents, mais ça ouvre le dialogue et on s'explique de pourquoi on le fait. Et comme on a dit dès le départ qu'on voulait le faire, en fait, nous,
oui,
on continue à dérouler la chose.
Voilà. Personne n'est surpris, personne n'a été pris en traître.
D'autres artistes ou le public peut être surpris parce que parfois, si vous venez pour la première fois vous dire « c'est quoi ce truc ? C'est pas ce à quoi je m'attendais par rapport au bâtiment, par rapport à la figure que je pouvais avoir du Tête de la Cité, comme emprise, comme histoire. » Donc là, il peut y avoir un décalage. Mais nous, notre travail, c'est que tout ce qui vous est donné à lire ou à manger en amont, tout ce qui est expliqué sur le site, dans le journal, dans la plaquette, les bords de scène... Les rencontres qui peuvent être faites doivent être des éléments de désamorçage, de contextualisation et surtout de démontrer que la diversité, que la pluralité crée justement la société. Et que c'est parce que nous sommes différents, que nous n'avons pas les mêmes points de vue et que nous ne sommes pas là pour être pour vous convaincre ou pour vous faire voter pour quelque chose, parce que je n'ai rien à vous vendre d'une certaine façon et je n'ai rien à vous convaincre pour m'élire. Donc il n'y a pas cet enjeu de marchandisation de notre échange, simplement de la cohabitation d'opinions contraires et d'un espace de débat qui fait que le théâtre depuis plus de 2000 ans est un espace politique puisqu'il est dit des choses qui doivent vous permettre de développer votre opinion et non pas de travailler simplement votre réaction. Je ne suis pas là pour savoir si vous avez aimé ou pas aimé, je suis là pour que vous ayez une opinion et que cette opinion vous la forgiez par rapport à la diversité des points de vue que vous pouvez entendre. Et j'accepte que vous ayez une opinion différente de la mienne, du moment que nous puissions en débattre et que nous puissions avoir un espace de... Je ne cherche pas le compromis ou la conciliation, je cherche juste le dialogue et ce fameux débat.
C'est pas la chose la mieux partagée du monde par les temps qui courent. On a plutôt l'impression de tension, d'une société fragmentée où chacun essaye non pas de construire, de convaincre l'autre, mais de détruire son argumentation.
J'ai une opinion très personnelle là-dessus. Je pense qu'on est dans une société qui essaye de plus en plus de nous modéliser. Il faut qu'on consomme tous la même chose, que vous soyez aujourd'hui en Espagne, en France, à Buenos Aires ou à New York, vous allez vous habiller avec des fringues Zara ou avec je ne sais trop quoi. On mange tous la même chose. Le burger est devenu le modèle du sandwich le plus développé dans le monde entier. Et vous le trouvez partout. On boit tous la même chose. Je veux dire, à un moment, se lance une nouvelle boisson, le Spritz. Et d'un seul coup, on va être à boire tous du Spritz à 19h au soleil tout l'été. Donc il y a une modélisation de la pensée, il y a une modélisation du comportement. Et on voit qu'on tire tout le monde vers le même type de modèle. Sauf qu'on ne se ressemble pas tous, on ne peut pas être tous pareils. Alors il est bien parfois qu'on tente de tous avoir les mêmes droits. Parce que ce sont des droits de socle que j'appelle. C'est-à-dire des droits d'égalité. Mais cette idée de nous faire ressembler, de nous faire disparaître, fait qu'en effet, vous ne pouvez à un moment, pour pouvoir vous identifier, que de déployer de l'individualisme. Parce que c'est votre seule ressource. Et donc, dans cet individualisme, vous créez une forme d'égoïsme. Parce qu'à un moment, pour pouvoir vous détacher, pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir être entendu, vous devez affirmer le contraire ou une opposition. Et je pense que tant qu'on n'acceptera pas cette diversité, cette différence comme une force, comme un atout, et non pas comme une contrainte ou comme une peur, et que tout cela crée de l'équilibre au contraire, mais en effet, on continuera à être dans une sorte de société individualiste, alors que je crois que ce sont les individus qui forment la société. Je ne sais pas si j'étais très clair.
Ah, vous êtes absolument clair, voilà. Et c'est tout à fait passionnant. Donc la santé intellectuelle retrouvée grâce au théâtre, et notamment au théâtre de la cité, c'est ça?
En tout cas, le théâtre est nécessaire à la santé intellectuelle d'une société, parce que il ne vient pas affirmer, il vient énoncer différents points de vue. Et aujourd'hui, si on monte autant les classiques, c'est parce que vous prenez 10 Tartuffes, vous aurez 10 lectures différentes de Tartuffe. Vous aurez quelqu'un qui va prôner le fait qu'en effet, il y a une sorte de conservatisme nécessaire à l'équilibre de la société. Et que quand c'est la loi qui reprend le dessus, c'est ça qui permet de remettre tout le monde à sa place. Vous allez avoir un autre point de vue qui va être de dire, mais à un moment, il y a une jeunesse oppressée et cette domination patriarcale qui ferait qu'il faudrait reproduire à l'identique de génération en génération, ce n'est plus possible. Et que c'est parce qu'une génération s'émancipe qu'elle crée du progrès pour la génération suivante. Vous allez avoir un autre point de vue de Tartuffe qui va être de dire que la place des femmes dans la société est nécessaire et que souvent elles ont une clairvoyance, une lucidité, une anticipation des relations humaines qui ferait que si on les écoutait un peu plus tôt, on s'apercevrait qu'on serait moins dans des rapports de tension ou de force. Donc la même œuvre qui a été écrite il y a plus de 400 ans par plusieurs metteurs et metteurs en scène permet d'avoir plusieurs lectures du monde. Et c'est ça le théâtre, c'est se donner la chance de lire, d'entendre, de comprendre que chacun peut avoir une lecture d'une chose et qu'en ayant cette lecture-là, vous recevez quelque chose qui vient chez vous déployer une pensée, une émotion, qui déploie votre propre pensée et donc qui peut vous dire « mais je ne suis pas d'accord, moi je pense que tu as sous-estimé, surestimé telle et telle chose ». Et vous pouvez aller voir 10 Tartuffes, vous ne verrez jamais la même pièce. Et c'est ça la force du théâtre.
C'est tout à fait passionnant. Est-ce que les politiques le reçoivent comme ça, comme vous le dites là? Est-ce qu'ils ont compris cette démarche ancestrale du théâtre?
Je pense que oui. Après, les politiques, et je ne nommerai personne parce que je pense que j'en fais partie aussi, on a une forme d'appréhension ou de peur qui nous fait perdre nos responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, vous me parliez de faire de la politique. Moi, je pense que notre responsabilité, c'est d'affirmer des choses, c'est de faire des choix. Et aujourd'hui, dans la politique, il y a une sorte de consensus, de compromis qui est à la base d'un peu tout. On a été dans cette... Je ne veux pas l'utiliser parce que ça me fait mal à chaque fois que je le dis, le « en même temps ».
Non, ne parlons pas de ça.
Voilà, mais
ça nous rappelle quelqu'un, on n'a pas envie d'en parler.
Cette sensation de croire qu'on peut faire ce compromis, ce consensus, et que tout peut cohabiter. Non, je pense qu'il faut affirmer des choses, et que je reviens sur mon idée, que c'est en affirmant qu'il y a des diversités et qu'il y a des différences qu'on donne à chacune leur place. Et le politique aujourd'hui, dans le spectacle vivant, pourrait avoir tendance à dire « Tiens, j'entends qu'il y a un besoin de divertissement, qu'il y a un besoin de chercher le résultat, qu'à un moment, la prise de risque, parce que par rapport au pouvoir d'achat, c'est difficile de mettre 12 ou 20 euros si on n'est pas satisfait. » Donc le politique pourrait se dire « J'ai tendance à produire ou à accompagner ce qui me rassure, ce qui me conforte. » Et je vais vous dire quelque chose. Moi, les chaussures Geox, qui sont confortables, en fait, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas envie d'être dans le confort. J'ai envie d'être dans le plaisir, dans la joie, dans le risque, dans l'émancipation de quelque chose. J'ai envie d'avoir mal au pied, mais qu'à un moment, la chaussure se fasse à mon pied, et pas l'inverse.
C'était le slogan de la FNAC au début, non, agitateur d'idées, c'était pas ça?
Peut-être.
Il me semble que c'était ça, donc c'est un peu ce que vous faites finalement.
C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que notre génération accompagne la génération suivante. J'ai deux étudiants en face de moi. Si je commence à dire, voyez ce que je le fais bien, j'ai tout bien cadré pour que ça vous convienne, rentrez dans mes pantoufles parce qu'elles sont confortables. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous proposer? Je vous propose d'être vieux alors que vous êtes jeune. Donc ça n'a aucune ambition. Au contraire, dites-moi, non, les pantoufles, elles sont bien, elles sont pour votre âge, et c'est bien qu'à un moment, on tende vers la pantoufle, parce qu'on est passé par, en effet, le sabot et ainsi de suite. Mais il faut que vous commenciez par la chaussure inconfortable, il faut que vous expérimentiez tout ça, pour qu'à un moment, vous trouviez un endroit de confort, qui devienne un référentiel pour que d'autres se disent, ah, toi, maintenant, c'est celle-là, ton pantoufle, mais je vais créer une nouvelle chaussure qui va me faire mal aux pieds. Et c'est comme ça, et regardez les choses qu'on a aux pieds, qu'on a évolué, et qu'on porte des baskets, qu'avant on portait des sabots et que bien avant on était avec des peaux de bête certainement. Donc il faut qu'on invente cette progression et cette façon de modifier la lecture qu'on a du monde, l'ambition qu'on a du monde, et ma lecture et mon ambition ne peut pas être la vôtre, et il faut que vous ayez, vous jeunesse, une autre ambition, une autre lecture pour que vous preniez le relais.
Est-ce que vous avez abordé tout à l'heure la question des scolaires qui venaient ici avec leurs enseignants? Est-ce que ces enfants qui viennent sont préparés au théâtre, sont préparés à cette philosophie très très intéressante que vous venez de développer, ou pas du tout?
Alors, je pense pas qu'ils soient préparés au théâtre en tant qu'art dramatique, parce que nous, on les prépare plutôt à être préparés à venir dans un théâtre, c'est-à-dire d'en comprendre les codes et l'exigence de ces codes-là. Aujourd'hui, la démultiplication des écrans, l'accessibilité à tout et n'importe quoi, de n'importe où et de n'importe quand. Aujourd'hui, vous pouvez faire un trajet tout en mangeant et en regardant un film. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la mobilité a perdu tout son sens. C'est-à-dire qu'avant, quand on vous demandait que de vous déplacer, maintenant, on vous demande de vous déplacer tout en mangeant et en regardant un film ou en écoutant un podcast. C'est-à-dire à faire trois choses à la fois. Donc, on essaye de leur réapprendre les codes du théâtre, c'est-à-dire de ne faire qu'une chose à la fois, s'asseoir, accepter le silence, accepter le noir, et recevoir ce qui nous est offert à ce moment-là. Ne pas regarder son téléphone, ne pas discuter avec son camarade. Et ça, c'est un exercice qui est devenu de plus en plus difficile par la banalisation de l'écran, de la télévision, où on peut faire plusieurs choses à la fois. En regardant la télé, on peut également être sur son téléphone et manger des chips, même chez soi. Donc on leur apprend plutôt une forme de retrouver le sens de l'objet théâtral, qui est la convocation, et qui est le plaisir de vivre, comme au cinéma, quelque chose en commun, en collectif. Et ensuite, on leur réapprend ce qu'est le vivant. C'est-à-dire que ce sont des gens sur scène, en réel, en vivant, en direct, qui nous racontent une histoire. Et là, il y a quelque chose de référentiel, quand c'est le cas, de rappeler que depuis qu'ils sont tout petits, leurs parents ou leur famille leur racontaient des histoires. Et que ce qu'ils préfèrent, c'est qu'on leur raconte des histoires. Donc un enfant est très apte et très actif et très captif à cette idée qu'on va lui raconter une histoire. Il adore l'idée que tout ne soit pas vrai. Il adore l'idée de ne pas tout savoir ou de ne pas avoir tout pour comprendre.
Il n'y a pas que les enfants, hein.
Oui, mais quand vous me demandez comment ces enfants étaient préparés à... En fait, c'est très facile parce que déjà, ils sont dans cette appréhension-là. Et après, on a une chance folle. C'est qu'autour de cette table, on a tous fait du spectacle vivant. Tous, petits, on a chanté une chanson. Tous, petits, on a convoqué nos parents pour dire « J'ai un spectacle, tous les grands, asseyez-vous, je vais vous montrer quelque chose. » On a tous joué au guignol. On a tous, à un moment donné, dans l'école, dans une association, fait un spectacle. Et allez savoir pourquoi. Alors qu'enfant, vous avez été acteur et actrice, voire metteur et metteur en scène, que ça a duré peut-être jusqu'à l'adolescence parce que vous avez une pratique musicale ou artistique. Pourquoi, quand on a 20 ou 25 ans, on oublie cela et on ne se l'autorise plus? Et pourquoi, pire encore, on pense que d'aller le voir ou d'y accéder nous semble quelque chose d'inaccessible? Alors qu'on a tous été acteurs et actrices d'un spectacle vivant depuis la plus jeune enfance. Donc on essaie d'entretenir cela, de dire, viens au théâtre, c'est très facile parce que, un, t'adores quand on raconte une histoire, et que, deux, les gens qui sont sur scène, en fait, ils font ce que toi, tu sais déjà faire et que tu as déjà fait. Donc, il n'y a pas de différence entre toi et eux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est quelque chose que dont tu connais les codes, dont tu peux savoir ce que ça veut dire de dire à un moment, asseyez-vous, regardez-moi, je vais vous raconter une histoire. Puisque tu le fais quand tu lis ton poème à ta maman pour la fête des mères, ou quand tu convoques tes grands-parents à Noël pour faire un spectacle guignol à la fin du repas, ou quoi que ce soit. Donc, en faisant référence à quelque chose qui nous est commun, qui nous est... oui, commun, j'ai pas d'autre mot, c'est-à-dire simple, facile, accessible, en fait, vous levez tous les boucliers, tous les a priori, toutes les frustrations, et quand vous gagnez ça avec un enfant qui a entre 3 et 12 ans, après, il faut savoir l'entretenir, parce que c'est gagné pour la vie.
Vous êtes deux directeurs, donc vous êtes une espèce de couple, si je puis dire. Comment ça se passe entre vous? Il y a une répartition, on discute beaucoup, les décisions sont prises ensemble. Comment...
Il y a de la complicité et de la confiance.
Comment vous êtes rencontrés? Parce que ben, les couples, c'est toujours ça, on pose la question. Vous avez des origines très différentes. On a un artiste bulgare, et vous, je ne connais pas votre parcours, votre formation. Vous êtes albigeois, donc...
Expatrié à Paris après.
Vous avez beaucoup travaillé dans le Lot aussi.
On s'est rencontrés parce que Galine voulait prendre la direction d'un théâtre et on lui avait fait comprendre qu'il avait besoin, au vu de son parcours, d'un binôme justement. Donc il a cherché et à l'époque, moi j'avais une société d'ingénierie culturelle qu'on appelle. C'est-à-dire que j'accompagnais des artistes à candidater dans des lieux et à formuler et à formaliser leurs projets. On s'est rencontrés par ce biais et après, pour reprendre votre métaphore du couple, il y a eu un coup de cœur artistique. Et on a rêvé ensemble de ce que nous pouvions écrire, de ce que nous pouvions rêver pour ce lieu. Et c'est comme ça que s'est créée cette confiance et cette complicité.
Ouais, vous avez fait un grand saut là, parce que vous étiez conseil et d'un coup, vous êtes devenu acteur.
Alors, je l'avais été dans d'autres structures. Donc, c'était un grand saut que je maîtrisais. Je savais quelle était potentiellement la durée de la chute et comment on atterrissait. Et je pense que c'est ça aussi qui faisait la complémentarité avec Aline. Après, dans notre quotidien, on ne décide pas tout ensemble parce qu'on ne décide de rien dans ce cas-là. Ça revient sur ma définition de la diversité et de la sincérité des individus. Ce qui est important, c'est que dans la complicité et dans la confiance, vous respectiez ou vous compreniez la décision de l'autre et que vous la souteniez. Donc nous sommes chacun à nos endroits de décision, mais nous avons un mode de communication qui fait que nous sommes au courant de tout et que nous sommes surtout... toujours au rendez-vous de l'autre. Quand il a besoin de l'autre, quand on a besoin de soutien, quand on a besoin de relais, quand on a besoin de confiance, quand on a besoin de gratification, l'autre est au rendez-vous de l'autre pour que justement, il y ait un accompagnement qui se fasse quotidiennement.
Alors pour revenir au théâtre et à la diversité d'activités, vous avez un incubateur créatif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur créatif? C'est un nom bizarre.
Alors c'est un nom un peu conceptuel. Ce qu'on voulait, c'était de faire comprendre que quand on sort... on est différent de comment on est rentré. Et dans l'incubateur, il y a la volonté de faire se déployer, de faire se multiplier, de faire grandir tout simplement une bactérie et de voir dans cette démultiplication ce qu'elle produit, ce qu'elle fabrique, ce qu'elle implique, ce qu'elle provoque. Et l'incubateur créatif était l'idée que le théâtre, en tant que machine, en tant qu'outil, faisait rentrer des bactéries qui étaient des artistes et nous allions leur permettre de se déployer, de se démultiplier, de grandir, pour reprendre le même vocabulaire, et d'infuser, de contaminer, au bon sens du terme, tout le monde. Et que nous bénéficions de cet enrichissement mutuel. C'est-à-dire qu'une équipe qui vient de travailler au Théâtre de la Cité doit nous apprendre des choses autant qu'on va lui en apprendre.
Donc ça veut dire qu'il y a un groupe d'acteurs déjà formés?
Non.
Non, pas. Ça peut être des individualités, ça se constitue, voilà. Qui va venir, qui va être en résidence finalement.
Qui va être en résidence, avec qui on va construire ou pas le décor, avec qui on va faire ou pas les costumes, avec qui on va faire de l'accompagnement en production, en communication, avec qui on va travailler.
Donc ils ont un projet, ils se retrouvent, ils déterminent un projet.
Et selon leur niveau de structuration, selon leur niveau d'avancement dans le projet, notre niveau d'intervention va être très différent. C'est-à-dire le nombre de choses que l'on va mettre dans l'incubateur va être sur mesure pour leur permettre de se déployer. Une équipe très réputée et très structurée a moins besoin de choses de la part du Théâtre de la Cité. Elle a besoin principalement d'argent.
Alors, quelle différence vous faites avec l'autre côté, l'atelier cité? Quelle est la différence entre l'incubateur et l'atelier cité?
Alors, l'incubateur, c'est au bénéfice d'équipes artistiques extérieures. L'atelier cité, le principe est d'installer 8 artistes sur une saison, 8 comédiens et comédiennes, et de leur permettre de rencontrer des metteurs et des metteurs en scène pour travailler autour d'ateliers, et que dans ce travail, ils diversifient leurs points de vue, ils apprennent à faire différemment que ce qu'ils ont appris à faire à l'école. Donc c'est secouer un peu la bouteille d'Orangina pour que la pulpe se décolle du fond, et les amener à faire une création sous la direction du metteur en scène, qui après part en tournée pour leur donner le statut d'intermittent pour qu'ils soient autonomes.
Donc vous faites de la formation?
On fait de l'insertion professionnelle.
Donc c'est des gens déjà formés. Vous êtes un peu l'université finalement.
Quatrième année.
Voilà.
C'est-à-dire l'année qui se ferait dans l'entreprise et qui permet de se confronter à la réalité et de ne pas faire ce que vous savez faire, même si c'est une parenthèse enchantée, de le faire dans des conditions où vous êtes dans la réalité du terrain.
Et ces jeunes, vous les sélectionnez comment? Parce que compte tenu de la richesse de ce que vous me dites là, il va y avoir plein de gens qui veulent venir.
C'est un processus de 6 mois. On fait un appel à candidature. Il y a à peu près 450 dossiers qui sont reçus. Dans ce dossier, il y a une série de questions, de parcours, d'histoire. On leur pose des questions très ouvertes. Par exemple, s'ils devaient partir sur une île avec un acteur ou un auteur vivant ou mort, avec qui ils partiraient? Quel serait le livre qu'ils voudraient raconter à leurs enfants? Enfin, on voit quels sont leurs imaginaires. De là, on en sélectionne 180 qui passent des auditions. Et de ces 180, on en sélectionne 20 qui font un stage probatoire qui dure une semaine. Et à la fin, il en reste 8. C'est un peu la Star Academy.
Star Academy un peu revue et corrigée.
Pas de caméra, en fait.
Voilà.
En effet.
La programmation, alors sur cette saison par exemple, il faut donner quelques exemples. Qu'est-ce que, si je vis en tête de la cité, qu'est-ce qu'on va m'offrir?
Alors sur la saison qui est terminée ou sur la saison à venir 24-25?
On va parler de 24-25, ce qui est derrière nous, ne le regardons plus.
24-25. Si j'ai envie de vous faire venir un peu chaque trimestre par exemple, alors je vais vous faire venir en ouverture de saison avec la Biennale, qui est le Festival International des Arts Vivants, que nous sommes... dont nous sommes à l'initiative et que nous portons avec 40 structures métropolitaines toulousaines, et qui est un festival où nous accueillons que des compagnies internationales. Et le principe, c'est que tous les 2 ans, nous faisons un focus sur la diversité et la richesse des équipes à l'international. Et si je devais vous faire venir à la rentrée pour voir une équipe internationale, je viendrais vous faire voir Narlass, qui veut dire testament en allemand, qui est un projet porté par Stéphane Caigui, qui est une pièce dans laquelle vous rentrez et où l'on vous propose de vous circuler dans 8 espaces. Et ces 8 espaces ont été pensés par 8 personnes qui parlent de leur mort en toute conscience. D'une mort qu'elles souhaitent, d'une mort qu'elles subissent par maladie, d'une mort qu'elles anticipent par rapport à leur âge. Et elles nous décrivent comment elles aimeraient mourir. Et à travers ces récits, qui sont d'une sincérité, d'une clairvoyance, nous apprenons à désacraliser cette étape à laquelle nous allons tous passer. Et dans ce débat national actuellement sur la fin de vie, il est d'autant plus riche d'entendre 8 parcours de personnes qui, de fait, traitent la question de la mort pour se faire sa propre opinion, plutôt que de croire qu'il y a une opinion descendante et bien pensante de comment il faudrait mourir. Et c'est une expérience immersive, participative, qui est d'une richesse en tant que spectateur, parce que vous êtes au cœur de l'expérience théâtrale, tout en étant dans un objet théâtral et scénographique et technique, qui fait que vous êtes au cœur de ce que c'est faire le théâtre dans l'artisanat.
Vous faites envie, effectivement. Alors ça, c'est pour le début, c'est pour l'automne, ça.
Voilà. Après cet hiver, je vais vous faire venir au mois de décembre voir la compagnie Barreau d'Evel pour un spectacle qui s'appelle « Qui sommes ?», qui veut dire « Qui sommes-nous ?» en catalan. Et Barreau d'Evel est une compagnie qui travaille sur le pluridisciplinaire, le cirque, le théâtre, la danse, la musique. Et avec 14 interprètes au plateau, en utilisant la céramique, la danse, le cirque, la musique, ils vont déployer tout un imaginaire pour poser la question de qui sommes-nous, dans quel monde vivons-nous, dans quelle étagère, si je devais faire un mauvais jeu de mots, Et comme quoi cette question est extrêmement complexe parce que personne n'en a la réponse. Et la définition que vous pourriez me donner aujourd'hui serait totalement différente demain si vous arrivez quoi que ce soit entre aujourd'hui et demain. Si vous rencontriez quelqu'un, si vous tombiez amoureux, si vous aviez un accident, ou si au contraire, vous gagnez au loto, quel que soit ce qui se passe, votre vie n'est pas prédéterminée et votre avenir n'est pas définitif. Et Barrow Devel, dans une euphorie, avec ses interprètes qui multiplient les arts, qui savent tout faire, dans une énergie à la fois circassienne et dansée, vont venir interroger cette ambiguïté, cette complexité de qui sommes-nous dans ce monde.
Bien, deuxième spectacle, troisième peut-être, un troisième.
Troisième spectacle, vous allez venir écouter Lorraine de Sagazan avec un spectacle au mois de mars qui s'appelle Léviathan. Et Léviathan, c'est un spectacle qui donne la parole à ce que doit être, ce que pourrait être la justice. La justice a pour objectif de surtout sanctionner le coupable, mais très peu de donner une place à la victime. Aujourd'hui, on veut que la sanction, que le jugement fasse, comme on dit jurisprudence, ou soit acte de reconstruction. Or, une victime ne cherche pas forcément la peine comme la reconstruction, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de savoir si vous allez faire 1 an ou 18 ans de prison, elle a besoin de comprendre pourquoi vous l'avez fait, elle a besoin de comprendre pourquoi ça lui est arrivé à elle, elle a besoin de comprendre si ça pourrait lui arriver et si elle peut se reconstruire.
Et après, il y a le public qui a besoin, c'est un aspect pédagogique aussi, tout la peine fait. Qui s'adresse plutôt, pas tellement à la victime, comme vous le dites, qui est un peu l'oublié dans le procès.
On cherche le symbole, on cherche la peur. C'est-à-dire qu'on dit, tiens, t'as fait ça, je vais te mettre tant d'années de prison, on cherche à ce que quelqu'un ait peur de cela. Or, Lorraine de Sagazan, par son spectacle, Léviathan, essaye plutôt de réinterroger si nous nous mettions du côté des victimes à travers plus de 400 témoignages qu'elle a récoltés où elle écrit un propos magnifique sur ce que c'est que d'être victime et quelle serait l'alternative à une justice où le mot juste reprendrait tout son sens et non pas le mot coupable. C'est un spectacle qui va être créé au Festival d'Avignon cet été, qu'on a accueilli en résidence et qui est d'une sincérité, d'une justesse, d'une lucidité sur le monde, tout en traitant la poésie par l'imaginaire et par le vécu. Et ça, c'est dans nos théâtres, cette puissance du récit qui fait qu'à un moment, vous avez l'impression que vous êtes incarné sur scène.
La programmation, comment vous la faites? Parce qu'il faut avoir une vision un peu exhaustive de l'offre. Vous êtes ici, on a compris qu'avec toutes vos activités, vous êtes un peu noyé, j'imagine. Alors, comment vous arrivez à savoir ce qui se passe ailleurs? Comment vous arrivez à connaître ce type de spectacle? Et après, il faut les faire venir. C'est extrêmement compliqué.
Compliqué, non. Je suis un peu suractif, je crois. passionné. Je vais vous renvoyer la question. Vous avez envie d'aller au restaurant. Comment vous vous y prenez? Si vous regardez l'annuaire, il doit y avoir 500 restaurants. Donc, c'est impossible à choisir. Donc, vous allez commencer à vous mettre des critères. De quoi j'ai envie de manger, avec qui, dans quelle ambiance, pourquoi faire. Et déjà, cet annuaire de 500 restaurants va certainement se réduire à une centaine. Si vous me dites j'ai envie d'un repas de famille, vous n'allez pas aller dans le même restaurant que si vous me dites j'ai envie d'un repas pour la première fois avec la personne avec qui j'ai envie de lui faire savoir que j'ai peut-être des sentiments pour elle. Donc c'est bien l'intention que vous avez qui va déterminer le format que vous allez choisir. Mais c'est un peu pareil pour moi dans le spectacle vivant. C'est-à-dire que j'ai peut-être 500, 1500, 2000 restaurants qui me sont offerts, mais selon les intentions que j'ai, le rendez-vous que je veux créer, la façon dont je veux qu'on mange ensemble, vont se réduire l'offre qui va m'être proposée. Et pour tirer la métaphore, et j'espère qu'elle est un peu explicite, j'ai une obligation. Je dois vous donner à manger une entrée, un plat et un dessert. C'est-à-dire que dans ma programmation, il faut que j'ai un plat de résistance où vous dites, là, j'ai eu tout ce que je voulais, j'en avais pour mon argent. Et si vous mangez que ça, vous avez ce qui vous convient. À la fois, il faut que je vous convainque de prendre une entrée. Et très souvent, au restaurant, on fait entrée plat. Et c'est la mise en bouche, c'est la fraîcheur, c'est souvent quelque chose qui est une déclinaison du plat. Mais pour vous convaincre de prendre un dessert, il faut que vous soyez gourmand. Il faut que vous ayez le temps. Il faut que vous ayez l'argent. Et ce plat supplémentaire qui est le dessert, souvent, vous ne le prenez pas dès le début. Et c'est le serveur ou la serveuse qui vient vous voir en disant « Un dessert ou un café ?» Et là, vous hésitez, vous dites « Ah, vous regardez l'autre dans les yeux pour savoir si vous prenez un dessert. » Et bien, c'est pareil dans la programmation. Il faut que j'ai des spectacles qui soient des desserts où j'arrive à titiller votre intuition, à vous dire que même si vous êtes rassasié, viens goûter cette petite surprise, cette cerise sur le gâteau. Il faut que j'ai des entrées qui vous donnent une façon de vous introniser, de vous introduire, de vous immerger dans ce que pourrait être quelque chose de plus consolidé, de plus réconfortant qui serait les grands repères dans le théâtre de la saison. Et c'est comme ça que je construis, c'est-à-dire je fixe les conditions d'accueil, je fixe de comment je veux que la rencontre soit faite, je fixe avec qui je veux manger, je fixe ce que je veux manger, pourquoi je veux manger, et après je cherche à l'intérieur de tout ça des délicieuses entrées, des fabuleux plats et des merveilleux desserts.
Passionnant, passionnant. On va devoir bientôt s'interrompre, Stéphane Gilles. Alors, on l'avait évité jusque-là, mais soyons un peu trivial. On va parler d'argent. Tout ça coûte beaucoup d'argent, j'imagine. Alors, comment on fait un budget au Théâtre de la Cité?
Alors,
qui c'est qui l'abonde, ce budget? Il y a bien sûr la billetterie, mais on a compris que...
La billetterie, ça représente à peu près 20% du budget.
Voilà, donc il nous en reste 80% à trouver. On les trouve comment?
C'est les collectivités territoriales, c'est-à-dire l'argent du contribuable qui finance. Il y a depuis plus de 55 ans maintenant, depuis Malraux, la constitution de ministère de la Culture qui considère que des outils, que des bâtiments, que des équipes, que des projets, que de la programmation, de la production sert à l'émancipation d'une société. Et de la même façon qu'elle décide de financer un orchestre, un opéra, des compagnies de danse, des équipes de théâtre, un musée, des lieux d'exposition, des grands festivals, le Rio Loco, le musée des abattoirs, elle finance le Théâtre de la Cité. Et ces collectivités sont l'État, la métropole ou la ville, la région, et jusqu'à présent c'était le département qui vient de nous laisser tomber sans raison et sans prévenance.
Oui, alors comment il faut analyser ce manquement au contrat finalement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et notamment aussi vis-à-vis des autres partenaires, parce qu'ils sont quatre, s'il y en a un qui dit brutalement et sans raison, ça pose problème, je m'en vais, surtout en cours de saison et sans délai de prévalence, comment vont réagir les autres? Ils vont dire on va mettre au pot, ou alors ils vont aller un peu le discuter avec le département pour lui dire qu'est-ce qui se passe?
Alors j'espérerais que ça soit les deux réponses que vous avez évoquées. Après, le simple fait de se poser la question de comment un département en plein milieu d'exercice peut quitter une institution qu'il subventionne depuis plus de 25 ans,
oui, c'est très
sans
étonnant.
Raison, sans contexte.
Bon, je sais bien que subventionner le passage de la flamme à coût de 200 000 euros, hein, ça fait plaisir, du pain et des jeux, les Romains l'avaient déjà dit, mais quand même, quand même.
Du pain et des jeux, en effet, mais en fait, je pense que si on se pose la question, c'est qu'on arrive... Personne n'arrive à le justifier et à l'expliquer. Donc là, on est déjà devant l'hypocrisie de la décision, parce qu'elle vient, d'une certaine façon, saboter un projet qu'eux-mêmes ont souhaité. Donc ça se retournera forcément contre la collectivité.
Mais c'est se tirer une balle dans le pied.
Voilà.
Surtout en pleine saison, tous les contrats, tous les engagements sont pris pour des mois à venir.
Tout à fait, parce que nous produisons en plus, donc voilà. Nous sommes très en amont des choses. Après, est-ce que les autres collectivités vont compenser? Je ne pense pas qu'en période d'inflation, ce soit même une réponse qu'il faudrait demander.
L'inflation, elle abonde voilà. Aujourd'hui. Elle
en tout
est
cas,
quand même
ça ne sera pas
réduit.
Le cas. Et le calendrier dans lequel on a été nous met devant un fait accompli. Donc, en fait, nous fait tomber tout de suite le genou à terre. Et quand vous avez un genou à terre, il est très difficile de se relever. Et c'est ce manque d'anticipation, ce manque de contexte qui est... désobligeant, et on a utilisé le terme de sabotage parce qu'on le pense vraiment, il y a une intention, mais là où je plains la collectivité et où je me plains en tant que citoyen de ce département-là, c'est que croyant que vous allez mettre un pansement sur une rustine, sur un pneu crevé, vous allez perdurer ou faire rouler votre vélo plus longtemps. Non, je pense qu'une collectivité, et on revient au mot de responsabilité que j'utilise tout à l'heure, aurait pu prendre ses responsabilités et affirmer un choix et l'expliquer. Et je pense qu'il aurait été accepté parce qu'il aurait été contextualisé, il aurait été transparent. Et ce choix aurait permis en effet de réparer la roue complètement et de changer la chambre à air. Sauf que là, c'est une rustine qui est « Oh, il y avait un trou, j'ai mis un scotch » et tout cela ne va servir à rien et ça va se retourner contre la collectivité.
On va essayer de terminer quand même avec optimisme. C'est une décision, peut-être qu'elle sera réévaluée, revue.
Nous l'espérons, nous l'avons appelée de nos voeux. Pour l'instant, nous avons une fin de non-recevoir et un refus de dialoguer.
Eh bien, peut-être qu'on ira les interroger avec mon
avec
équipe.
Avec joie, si vous pouvez en être mon ambassadeur, je vous en suis reconnaissant. Parce que
oui,
nous,
non, mon ambition ne va pas jusque-là, mais enfin...
Non, mais je reprends mon explication tout à l'heure. En tant que locataire, je me dois de protéger l'outil et de le rendre dans le meilleur état. Et avoir fait perdre cette subvention est un désaveu de la collectivité, qui tout compte fait est un désaveu de l'attractivité de cet outil pour la suite. Et nous allons le quitter à une échéance courte. Et donc la collectivité se perd l'atout qu'elle aurait d'être incitative, invitante à avoir les plus belles choses qui se passent sur son territoire.
Bien, je ne vais pas donner mon avis, puisque je l'ai largement donné avant de cette interview. Donc, ceux qui nous ont écoutés jusque-là savent quelle est mon opinion. Je pense qu'on y reviendra. En tout cas, merci de m'avoir consacré du temps, Stéphanie.
Merci à vous.
Vous êtes passionnant et passionné, et vous êtes ce qu'on appelle un bon client, parce que finalement, vous déroulez le discours avec une grande facilité. Et je crois que ceux qui nous écouteront viendront au Théâtre de la Cité, parce que vraiment... Vous nous avez donné envie, grand merci, et puis bon vent au Théâtre de la Cité. Là, on est un peu dans une turbulence, mais je ne doute pas qu'on va retrouver des vents meilleurs.
Oui, et la joie nous anime, et c'est sincère, et je pense que c'est ça qui fait qu'on ne peut que se souhaiter une belle saison.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, ce sera le mot de la fin. Merci Stéphanie.
À bientôt.
Merci à Stéphane Gilles et au Théâtre de la Cité que désormais vous connaissez mieux, mais vous le connaissiez déjà certainement. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller voir les spectacles. Vous l'avez compris, c'est une maison qui fait de la culture à très haut niveau, de la qualité. C'était Cap Cap, une émission de Jacques Lavergne avec à la technique et au montage Léo Touroul que je remercie. Et bien évidemment, vous pourrez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station. Esprit Occitanie. Bonne semaine à toutes et à tous.